écoutez Cédric du Sport sur Choc FM.
On est de retour sur Choc FM dans Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. En première partie, on a parlé de soccer comme on le fait d'habitude. Je vous ai annoncé que la semaine prochaine, il y aura une émission un petit peu particulière puisque on aura une invitée féminine. Ce ne sera pas en direct là, ce sera en enregistré, mais je ne vais pas promettre là, mais ça va être quelque chose de particulier. Pourquoi je vais le faire? Parce que il y a la fête des mères qui arrive. Il faut rendre honneur à ces dames-là. Et donc, on va faire comme un genre d'interview, comme ça, personnalisé avec une dame qui s'intéresse beaucoup au sport. Donc, on est en deuxième partie. Et comme on le fait depuis plusieurs semaines, on fait un mot sur les Jeux Olympiques. On est maintenant à ce qu'on appelle le compte à rebours. On arrive maintenant à 100 jours, au moment où cette émission est enregistrée, on arrive à 100 jours avant les Jeux Olympiques. Je le rappelle souvent, ces jeux-là auront lieu du 26 juillet au 11 août à Paris, dans Paris, dans la ville lumière, la capitale de la France. Il y aura 329 événements pour 32 sports. Il y aura 10 500 athlètes à parité, hein, à moins qu'il essaie de changer là, mais c'est vraiment moitié-moitié. Que ces jeux-là promettent d'être historiques, hein, puisque Paris deviendra la deuxième ville en dehors de Londres à accueillir les Jeux trois fois après 1924. Donc, 100 ans plus tard exactement, Paris accueillera les Jeux Olympiques. Et comme je le dis à chaque semaine, ben, j'essaie de donner des petites anecdotes sympas. Là, en passant, s'il y a des personnes qui pourraient m'aider à obtenir une accréditation, parce que je compte bien me rendre à Paris, moi j'aimerais bien ça là, de toute façon. Allez, quelques anecdotes intéressantes, puisque apparemment la Fédération Internationale d'Athlétisme a décidé d'allouer des sommes d'argent pour les athlètes qui gagneront des médailles d'or olympiques, donc 50 000 $, ça peut être intéressant ça, ce serait une motivation en plus. Bon, ce serait dommage pour ceux qui finiront deuxième et troisième, donc avec les médailles d'argent et de bronze. Mais c'est une nouvelle, quoi. Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé avant. Qu'est-ce qu'on apprend encore sur les Jeux Olympiques? C'est qu'apparemment, il y a des menaces pour la sécurité des athlètes et des installations. Donc, il y a non seulement les forces de sécurité françaises qui sont en alerte, là, qui sont, commencent à se préparer, mais apparemment aussi, il y a des forces de sécurité étrangères qui ont été sollicitées pour venir assister aux Jeux, non pas pour voir les compétitions, mais pour pouvoir s'assurer de la quiétude, de la sécurité de toutes les installations ainsi que des athlètes et de tous les événements qui auront lieu là. Apparemment, un certain Vladimir P. voudrait organiser une surprise pendant les Jeux Olympiques, mais je ne comprendrais pas. D'autant que à ces compétitions-là, il y aura des athlètes russes. Donc, pourquoi il faudrait faire des choses négatives? Je ne comprendrais pas cette intention-là. Mais c'est Vladimir P. Et vous savez de qui je veux parler. Je ne vais pas dire son nom pour qu'il n'y ait pas des ennuis à Choc FM. Ok, moi-même d'ailleurs en passant. Une autre information sur les Jeux Olympiques. J'ai appris comme ça que le comité olympique canadien a mis en œuvre, va mettre sur le marché des tickets pour ce qu'on appelle la Maison Olympique du Canada. Donc cette Maison Olympique du Canada, ce sera à Paris, dans ce qu'on appelle la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans le parc de la Villette. Ce sera là que il y aura un service d'accueil pour les athlètes eux-mêmes, pour leurs familles et pour tous ceux qui sont les sympathisants de l'équipe du Canada. Donc, ce sera la première fois depuis 2018 qu'il y aura le même type d'installation. Les tickets vont être en vente. Ça va être en vente à partir du 27 juillet au 11 août. Et ça peut être à acheter à l'avance sur le site du Comité olympique canadien. Qu'est-ce que je vois? Par exemple, il y a des tickets en 30 euros pour les adultes et 12 $ pour les enfants de moins de 12 ans. 30 euros, c'est faire à peu près 40 $. Ouais, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une entrée, bien sûr, dans la Maison Olympique canadienne. Assister à des événements pour pouvoir voir les compétitions des équipes du Canada. Il y aura des prestations artistiques sur place. Il y aura l'opportunité de rencontrer des athlètes. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. J'adorerais ça, moi. Et puis surtout, il y aura à boire et à manger, mais bien sûr, sur achat, il n'y aura rien de gratuit. Donc, s'il y a des personnes qui pourraient m'aider à obtenir ça, moi, je vous dis là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de pouvoir le faire. Voilà. Donc, c'était ça pour la minute sur les Jeux Olympiques. On essaie de le faire à chaque semaine. Là, je vous le dis depuis plusieurs mois. On travaille aussi au niveau des coprods. Et là, on a un nouveau partenaire qui est en train de s'ajouter pour des podcasts sur les Jeux Olympiques. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous me contactez là et puis vous allez sur la page des coprods, vous envoyez un email. On est en train de travailler là-dessus parce que ça avance là. Écoutez, on arrive à la mi-avril. On a fait juste un podcast jusque-là. On aurait voulu en sortir un à chaque mois, mais pour du point de vue technique, ça va pas être possible. Mais peut-être, peut-être, peut-être les diffuser comme ça sur les 3 semaines de l'événement. En tout cas, on essayera de faire le mieux possible de ce côté-là. On va parler maintenant du baseball. Oui, comme ça, je vais pas l'oublier. Les Blue Jays ont commencé leur saison. Ils ont enfin commencé la saison à domicile. Je pense sur les quatre matchs, pardon, je commence à mâcher mes mots. Sur les 4 matchs qu'ils ont joués jusque-là à domicile, ils en ont gagné 3. Donc c'est bien, c'est très très bien là. Avec des victoires assez importantes, notamment contre l'équipe de Tampa. Si je me rappelle bien, là, en fin de semaine, ils vont accueillir une équipe de New York. Est-ce que c'est les Mets ou les Yankees? Je ne suis pas sûr à 100%, mais toujours est-il que c'est très intéressant ce que les Blue Jays sont en train de faire. Ils sont en train un peu de se replacer parce que oui, les matchs du début de saison comme ça n'ont pas une énorme importance, mais c'est toujours bien de pouvoir emmagasiner de la confiance pour eux-mêmes. Il ne faut pas commencer la saison trop mal, même si beaucoup de gens ne le savent pas, mais la saison de baseball est extrêmement longue. C'est 162 matchs. C'est quasiment le double des ligues régulières, là, la NBA, la Ligue nationale de hockey, tout ça. 162 matchs. C'est énorme. Bon, en tout cas, je vais juste donner le classement de la poule des Blue Jays. Donc, c'est la American League East. Donc, pour l'instant, c'est les New York Yankees qui sont premiers avec 10 victoires, 3 défaites, suivis par Baltimore, 8 victoires, 4 défaites. Tampa Bay Rays, 7 victoires, 6 défaites. Boston, les Red Sox, 7 victoires, 6 défaites. Et les Blue Jays, 6 victoires, 7 défaites. Donc, pour l'instant, dernier dans leur ligue, dans leur poule. Mais sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5 victoires, 5 défaites. Il y aura sans doute moyen de s'améliorer. Une petite rectification. J'avais dit qu'ils avaient joué 3 matchs à domicile. En fait, ils en ont 4 matchs à domicile. En fait, ils en ont joué 3. Est-ce qu'il y a une équipe qui domine vraiment de la tête et des épaules la ligue juste là? Ben, les Yankees, 10 victoires, 7 défaites. À part eux, il n'y a pas vraiment d'équipe notable. Jusque-là. Jusque-là. J'insiste bien. Jusque-là. Ok, sans transition, on va parler de la Ligue nationale de hockey. Puisque ce sont les tout derniers matchs qui ont lieu. Et je rappelle que je vais assister au dernier match à domicile des Toronto Maple Leafs. Déjà les classements. Les classements. Les équipes qui sont déjà qualifiées pour les playoffs, puisque là on arrive dans les 2, 3 derniers matchs de la saison régulière. Donc New York Rangers, dans la conférence Est. On est maintenant au moment où cette émission est enregistrée. Ils ont joué 80 matchs, ils sont officiellement qualifiés. Les Caroline, les Hurricanes qualifiés également. Boston, les Red Bruins, les Bruins qualifiés aussi. Florida, les Panthers qualifiés aussi. Toronto Maple Leafs qualifiés aussi. Tampa Bay, le Lightning qualifiés également. New York Islanders, qu'on pensait, on n'était pas sûr, mais bon, 79 matchs pour l'instant, ils ont 89 points, donc ils ont une bonne chance de se qualifier, alors que Pittsburgh, qu'on pensait déjà éliminé, qui ont le même nombre de matchs joués que les Islanders, mais maintenant, ils ont tout simplement plus le droit de perdre, donc ils peuvent encore passer devant. Les New York Islanders, alors que des équipes comme Détroit éliminé, ben pas éliminé officiellement, mais bon, il n'y a quasiment aucune chance qu'ils passent. Washington aussi, ben il reste une chance minimale. Philadelphia qui a enchaîné les défaites récemment. Là, sur les 10 derniers matchs, ils ont 8 défaites. Eh, c'est dommage, là, pour John Tortorella, ils avaient fait quand même une belle saison. New Jersey aussi, qui venait de battre les Toronto Maple Leafs 6 buts à 5. Les Leafs, toujours des gros, gros problèmes en défense, là. Pour gagner un match, il faut marquer vraiment 5 buts. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour gagner. Buffalo éliminé aussi. Ottawa éliminé. Montréal avant-dernier de la conférence Est, alors que Columbus est le tout dernier sans c'était de la conférence Est dans la conférence Ouest. Dallas est qualifié pour les playoffs. Vancouver aussi. Winnipeg aussi. Colorado aussi. Edmonton aussi. Et je rappelle qu'ils avaient commencé la saison de façon vraiment catastrophique. Nashville qualifié aussi, Los Angeles les Kings aussi, Las Vegas les Golden Knights, qui ont une très très bonne chance de se qualifier. Pour cela, il faudrait qu'ils gagnent au moins deux de leurs quatre derniers matchs. Saint-Louis a une petite chance, mais j'y crois pas vraiment. Minnesota éliminé officiellement, Seattle aussi, Calgary, Arizona, Anaheim et les deux derniers dans la conférence Ouest, c'est Chicago et San Jose. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau des statistiques? Et c'est ça, la chance que j'aurai, puisque j'aurai peut-être l'occasion de voir pour la première fois en 30 ans, il y a 30 ans évidemment, j'étais encore en petite culotte là, pour la première fois en 30 ans dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, il y aura peut-être un joueur qui va atteindre la barre symbolique des 70 buts. Et j'aurai peut-être l'occasion de voir ça en personne, puisque au moment où cette émission est enregistrée, Austin Matthews, joueur de centre, les Toronto Maple Leafs est à 68 buts. S'ils jouent contre ils vont jouer contre Détroit le samedi. C'est possible. Bon, Détroit n'est pas une équipe extrêmement performante en défense. Donc, il y a de bonnes chances que Austin Matthews atteigne la barre des 70 buts samedi soir. Ce sera absolument historique. Absolument historique. Et si j'ai surtout l'occasion de voir ça en direct, ce serait vraiment incroyable, hein, franchement. Et je voudrais à cette occasion-là vous partager ça lors d'un bon petit reportage la semaine prochaine, chers auditeurs et chères auditrices. Allez, on va donner les statistiques individuelles. Donc au niveau des points, c'est Kucherov avec 139 points. Ouh là là, c'est une machine lui. 43 buts, 96 passes. MacKinnon est deuxième, 137. McDavid, 130. Panarin, 116. Pasternak 107. Au niveau des buts, il faut que je trouve la statistique là. Donc je vous disais, c'est Austin Matthews avec 68 buts. Ouais. Zach Hyman, ah ouais, surprenant. Mais il est bien loin derrière là. 53. Reinhardt, MacKinnon, Pasternak, Panarin, Point, Kucherov. Mais ça reste que c'est énorme ce que Austin Matthews est en train de faire. Donc, s'il arrive à 70 buts, ça veut dire qu'il aurait quasiment marqué, disons, en moyenne, donc plus de 85% des matchs. C'est énormissime, ça. Mais mon inquiétude par rapport à lui, ça demeure toujours les playoffs. Même s'il a des statistiques décentes en playoffs, mais son instinct de buteur, là, c'est comme ça s'évanouit en playoffs. C'est clair que j'ai un peu de mal avec Austin Matthews. Allez, sur les statistiques encore dans la Ligue nationale de hockey. On ne le fait pas souvent, mais c'est la fin de saison là, donc il faut mettre un petit peu cela en valeur. Au niveau des gardiens, donc il y a ce qu'on appelle la moyenne de buts encaissés. C'est Stolarz qui est premier, donc c'est le gardien des Panthers. Rittich de Los Angeles, Kochetkov, Dakor et Helbuyck. Mais Helbuyck qui a un pourcentage énormissime là, 0.9, 0.92. Donc, il fait 90% d'arrêt pour un gardien, c'est énormissime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben oui, hein, a priori, c'est juste ça que je pouvais donner comme autre statistique concernant la Ligue nationale de hockey. Ah oui, au niveau des buts marqués, et ça, c'est une statistique que je n'ai pas vue souvent, au niveau des buts marqués, c'est Colorado qui est en tête, presque 300 buts, suivi par Dallas et Toronto. Et au niveau des défenses, la meilleure défense de la ligue, c'est Winnipeg, suivi par Florida et la Caroline. Ça aussi, c'est le gage d'une équipe qui est très, 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 très solide. Et franchement, ça fait une énorme différence quand les playoffs arrivent. Allez, sans transition, on va aller en NBA. On va donner les classements en NBA. Rappelez que, bon, vous savez, les Toronto Raptors sont éliminés depuis très, 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 très longtemps. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est voilà, quoi. C'est la situation. Et qu'en NBA, c'est les deux derniers matchs normalement de saison. Les deux derniers ou trois derniers matchs de saison régulière. Déjà, à l'Est, en tête, c'est Boston. Donc, il leur reste deux matchs, 62 victoires. C'est une saison record pour les les Celtics. Milwaukee est derrière, ils vont peut-être atteindre la barre des 50 victoires, mais quand même sur... Ils sont sur 2 victoires consécutives, mais depuis que Doc Rivers est arrivé, c'est pas super impressionnant là. J'avais noté que sur les 31 premiers matchs de Doc Rivers, il y avait 15 victoires et 16 défaites. C'est vraiment moyen. New York qui est officiellement qualifié, Cleveland qui va sans doute suivre, Orlando aussi et Indiana. Maintenant, les équipes qui se battent pour le play-in, et c'est là, c'est intéressant. Le play-in, c'est le tour de qualification. Donc, pour l'instant, 7e Philadelphie, 8e Miami, 9e Chicago et 10e Atlanta. Suivent Brooklyn, 11e, Toronto, 12e, Charlotte, 13e, Washington, 14e et tout dernier, c'est Détroit. Dans la conférence Ouest, c'est toujours Denver qui est en tête. Suivi par Minnesota, Oklahoma City, les Clippers et Dallas. Donc, ces 5 équipes-là sont officiellement qualifiées pour le premier tour des playoffs. Il y aura notamment une confrontation intéressante entre les Los Angeles Clippers et les Dallas. Et ce sera vraiment une belle confrontation à suivre. Maintenant, les équipes qui vont se battre pour le play-in. Donc, New Orleans qui peut toujours perdre sa 6e place. Phoenix qui est juste derrière. Donc, qui est pour l'instant 7e. 8e, c'est Sacramento. 9e, c'est Golden State. Et 10e, c'est les Los Angeles Lakers. À noter que le 8e, le 9e et le 10e à l'ouest ont exactement le même bilan, 45 victoires et 35 défaites, que si Golden State devait jouer pour le match de play-in, donc pour le match de qualification pour le premier tour face aux Lakers, ils auraient l'avantage du terrain puisque sur les trois confrontations de ces deux équipes-là, Golden State en a gagné 2 alors que les Lakers en ont gagné un seul. Voilà, c'est ça pour la situation actuellement en NBA. De façon exceptionnelle, je vais donner le programme des matchs puisque c'est très très important ce qui va arriver là au cours des prochaines semaines, au cours des prochains jours là. Tous les matchs sont vraiment importants, notamment à l'ouest. Donc, qu'est-ce qu'on note? C'est que le vendredi, Orlando Magic va affronter Philadelphie. Donc, si Philadelphie gagne ce match-là, ils peuvent revenir à hauteur de Orlando. Chicago qui va jouer contre Washington, dans ce match n'a aucune importance. Charlotte va jouer contre Boston. Bon là, juste Boston va sans doute juste faire plaisir là, juste pour la forme. Les Pacers qui vont jouer contre Cleveland. Là, si les Pacers gagnent, ils reviennent à hauteur de Cleveland. New York contre Brooklyn. Bon, match pas très important. Le Toronto Raptors qui va jouer leur dernier match, l'un de leurs deux de leurs derniers matchs, ils vont aller jouer à Miami. Déjà, le dernier match à domicile, ils ont perdu. Franchement, c'était dommage de voir ça. C'est vrai que c'était contre les Pacers, qui est une meilleure équipe, mais quand même, faire l'effort de gagner le dernier match à domicile pour faire plaisir aux fans, même pas capable de le faire. Franchement, c'était décevant, là, moi, bref. C'est temps que cette saison-là finisse. OK, Atlanta, qui va jouer contre Minnesota. Bon, Atlanta, il n'y a pas grande chance. Ils sont 10e. Ils vont essayer sans doute de se arracher une place pour le play-in, mais bon, j'y crois pas trop pour eux. Denver qui va jouer contre les Spurs. Denver qui va sans doute faire tourner. Milwaukee va jouer contre Oklahoma. Oklahoma aussi va faire tourner. Los Angeles, c'est Lakers qui vont jouer contre Memphis. En tout cas, les Lakers n'ont pas intérêt à perdre ce match-là parce que sinon, Golden State, qui est sur 3 victoires consécutives, se placerait définitivement pour consolider sa 9e place. Détroit qui va jouer contre Dallas. Bon, Dallas va sans doute gagner ce match-là. Golden State qui va jouer contre New Orleans et ce sera à domicile. Ils sont en forme, Golden State, mais toujours est-il que New Orleans sont très très en forme. Et pour finir sur les matchs du vendredi, c'est Houston qui va jouer contre Portland. Ben, Houston déjà éliminé, là on le sait. Alors que Utah va jouer contre les Clippers. Ce sera sans doute un match d'entraînement pour les deux équipes, puisque Utah est déjà éliminé depuis longtemps. Alors que les Clippers sont officiellement qualifiés pour le premier tour. Et pour finir, dans les matchs du vendredi, ce sera Phoenix qui va affronter Sacramento. Donc je rappelle que le premier tour des playoffs de la NBA, ce ne sera pas avant 2 semaines, que certaines équipes, notamment à l'ouest, beaucoup d'équipes ont encore la possibilité de se qualifier, mais que ça reste serré, ça reste très serré, qu'on ne peut pas garantir que telle ou telle équipe sera déjà qualifiée. Ben oui, les équipes qui sont en avant seront sans doute déjà qualifiées, mais qu'il y a encore des possibilités, notamment pour les qualifications pour ce qu'on appelle le play-in. Je voulais dire un mot sur, les trophées individuels, puisque au niveau du MVP, ce qu'on appelle le MVP race, il est possible que Jokic soit encore MVP, donc joueur par excellence, meilleur joueur de la ligue pour la troisième fois en 4 ans. J'ai lu des commentaires un peu, ben je vais le dire là, idiots de certaines personnes, comme par exemple l'humoriste Kevin Hart, qui dit que ce serait pas bon pour la ligue que Jokic devienne MVP. Je sais pas pourquoi il dit ça. C'est vraiment, on élit MVP à cause du talent, pas à cause de son style de jeu. C'est vrai que Embiid est un joueur très, très dominant et depuis qu'il est là, il a scoré beaucoup de points, mais il a perdu trop de matchs. Personnellement, si je pouvais voter pour le MVP, ben moi, j'irais avec Shea, le Canadien de Oklahoma City, parce que c'est le joueur qui a marqué le plus, qui a eu le plus de matchs à plus de 30 points. Mais dans les projections qui sont là pour l'instant, pour le trophée des MVP, c'est Jokic premier, Doncic deuxième, Shai Gilgeous-Alexander 3e, Antetokounmpo 4e et Jason Tatum 5e. Pour le trophée de rookie, je pense pas qu'il y aura de suspense. Ce sera probablement pour Victor Wembanyama. Franchement, hein? Et moi je l'ai dit là, je suis sur des forums de basket. Je dis que Wembanyama pourrait devenir le premier rookie dans l'histoire de la NBA à devenir. Être désigné MVP, pas MVP, pardon, meilleur rookie, mais de façon unanime. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne d'autre qui va voter pour quelqu'un d'autre. Il aura tous les points, en fait, pour devenir rookie de l'année. Ça, ce serait vraiment extraordinaire si ça arriverait, quoi. Franchement, je ne vois pas quelqu'un avec tout son esprit, là, voter pour quelqu'un d'autre que Wembanyama. Franchement, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait vraiment pas de sens. En tout cas, dans les projections pour l'instant, c'est Wembanyama premier, Holmgren deuxième et Brandon Miller troisième. Mais franchement, la palette technique que Wembanyama affiche à chaque semaine, je dis, c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire, quoi. Et je rappelle qu'il n'a que 20 ans, ce gars-là. Pour le trophée de meilleur défenseur de l'année, le meilleur joueur défensif de l'année, donc là c'est Gobert pour l'instant qui reste premier dans les projections, suivi par Bam Adebayo de Miami, Anthony Davis des Lakers. Ça reste discutable. Moi je pense qu'ils auraient pu donner sa chance à Wembanyama. Maintenant le problème c'est qu'il joue dans une équipe qui est très mauvaise défensivement, les Spurs. Mais au niveau statistique, ce que Wembanyama arrive à faire, c'est incroyable, quoi. Au niveau des contres, il a déjà réussi le double des contres de Gobert de l'année dernière. Je ne sais pas si vous imaginez combien c'est fou de faire ça. Il est nouveau dans la ligue, mais il a déjà réussi à battre les statistiques de Gobert de l'année dernière, quoi. Il a 3 points, 3 contres par match. C'est énormissime. Il a déjà réussi en un an à mettre plus de contres que la plupart des joueurs en NBA. Ça paraît un peu. Donner une perspective à cela, c'est très fort, quoi. Ok. Au niveau de coach de l'année, Mark Daigneault de Oklahoma City. Ben oui, la progression est absolument incroyable, ce qui est arrivé avec cette équipe-là. Oklahoma, c'est une équipe qui était en reconstruction pendant plusieurs années. Et puis là, ils vont finir dans les 3 premiers à l'ouest. Probablement, ça va aller à lui. Ou alors, coach Jamal Mosley de Orlando Magic. Also, un autre nominé, ce serait Chris Finch des Minnesota Timberwolves. Ce qui est sûr, ce ne sera pas l'entraîneur des Raptors, ça c'est sûr et certain. Au niveau du meilleur sixième homme, on pense à Nazim Red de Minnesota Timberwolves, Malik Monk de Sacramento, Norman Powell, notre bon vieux général Powell des Clippers, mais on aurait pu donner aussi une nomination à Westbrook, puisque parmi les meilleurs sixième hommes de la NBA. Maintenant, pour la dernière récompense, c'est ce qu'on appelle le Most Improved Player, donc le joueur ayant le plus progressé. Personnellement, J'aurais donné ça au joueur de Boston, pardon, de New York Knicks, Jalen Brunson, qui était déjà All-Star, mais qui a réussi vraiment des scores incroyables cette saison encore une fois. Bah, dans les projections là que je vois là sous les yeux, on parle de Tyrese Maxey de Philadelphie. Bon, c'est sans doute un peu de, comment on appelle ça? Parce qu'il a réussi de grosses performances récemment, donc ça aide probablement sa cause. Mais franchement, je préfère Jalen Brunson. Franchement, je préfère Jalen Brunson parce que lui, c'est un joueur qui quasiment porte les Knicks, quoi. S'il n'y avait pas ce joueur-là, je pense même pas que les Knicks auraient une chance d'aller en playoff. Ils seraient sans doute au milieu, parmi les équipes probablement bien placées, mais je pense pas que les Knicks pourraient. Franchement, Brunson, c'est mon favori pour devenir. Joueur ayant le plus évolué. Maintenant, je ne fais pas partie du syndicat des journalistes qui peuvent voter, mais franchement, j'aurais voté pour lui, quoi. Donc, pour l'instant, il passe à Maxi, Tyrese Maxi, des Philadelphia les Sixers. Deuxième, ce serait Kobe White, des Chicago Bulls. Et le troisième, ce serait Jalen Williams, des Oklahoma City Thunder. Encore une fois, là, ça se discute. Mais bon, c'est vrai que Jalen Williams a réussi de très très grosses performances cette saison. Donc oui, il y a de bonnes chances aussi que il ait des votes aussi pour joueur ayant le plus progressé. Toujours est-il que c'est sur cette page NBA qu'on va finir cette émission de Cédric du Sport. Je rappelle que en ce samedi 13 avril 2024, je serai présent ou le dernier match de la saison des Toronto Maple Leafs. On n'a pas eu l'occasion de le faire souvent, d'aller voir les Leafs pendant cette saison. Vous savez, les places sont chères, hein? Beaucoup de gens veulent y aller, mais moi, avec mes contacts et tout comme ça, et un peu de chance, j'ai réussi à négocier cette place-là pour vous. Donc, on aura des sons exclusifs, on aura bien sûr les résultats, l'analyse du match et peut-être une interview avec le seul joueur francophone de l'équipe qui s'appelle Simon Benoit. Justement, Simon Benoit qui a signé une extension de contrat il y a seulement quelques semaines. Ce sera aussi l'occasion de parler de cela avec lui lors de l'émission prochaine. C'était Cédric du Sport sur Choc FM, l'émission de sport de Choc FM. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Bon samedi à tous et à toutes.